Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est la chronique Le regard de Beauregard d'Étienne Alexandre Beauregard qui nous présente la nouvelle première ministre française Élisabeth Borne et analyse deux polémiques en politique française entourant le nouveau Conseil des ministres, notamment la nomination d'un ministre de l'Éducation aux thèses controversées. Il décrit enfin la résurgence du débat sur le burkini en raison d'une décision d'un maire écologiste qualifié de crétin par une socialiste à la télévision. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Gros sondage ce matin. Encore une fois, la CAQ domine. Il y a une petite ombre au tableau, là, c'est à Québec, les conservateurs. Donc, il y en a été abondamment question depuis ce matin, mais tu veux soulever un angle qui a été peu exploité jusqu'à maintenant.
Oui, mais du côté du Parti libéral de Dominique Anglade, le parti se retrouve dans un vraiment sérieux problème. Parce que, on voit là, que dans les intentions de vote, ils sont à 18%,
ouais.
Mais 9% seulement chez les francophones. Écoute, là, en bas de 10% chez les francophones, c'est rien de moins que catastrophique. Et tu sais que on s'est rendu compte, évidemment, là, à la dernière élection, ça a été une dégelée pour les libéraux. Là. Tu sais, pour eux, c'est un résultat catastrophique, l'élection de 2018 en partant. Et ils ont réalisé qu'il y avait eu une déconnexion totale avec la majorité, si tu veux, des Québécois et le peuple québécois sous Philippe Couillard, qui n'était pas vraiment en diapason de l'humeur des Québécois et de leurs préoccupations.
Surtout quand il a dit qu'on pouvait se nourrir avec 75 $ par semaine.
Ben, c'est ça. Bon, puis écoute, je veux dire, la
imagine
langue,
aujourd'hui.
Pour lui, la langue, c'était pas un problème, puis la laïcité, il n'avait pas besoin, puis bon, etc. Alors, sous Dominique Anglade, elle a amorcé un virage et il fallait absolument que les libéraux essaient de reconnecter avec l'électorat francophone. On ne peut pas tolérer pour un parti comme ça, le parti de Jean Lesage et Robert Bourassa, qu'ils n'aient pas un député dans l'Est du Québec. À Québec même, et dans l'Est du Québec, dans beaucoup de régions, ils ont été balayés. Donc, ça, je dis, c'est insoutenable. Et Dominique Anglade, finalement, je pense qu'elle a pris peur quand elle a vu dans les sondages qu'il y avait son positionnement, parce qu'ils étaient d'accord, ils étaient favorables au début quand le projet de loi de Simon-Jolin Barrette pour réformer la loi 101 a été présenté. Mmh. Et eux-mêmes, ils ont apporté la proposition des 3 cours de français que devait suivre même la communauté historique anglophone à l'intérieur des cégeps anglo. Et puis là, finalement, ben, je pense que Dominique Anglade, c'est ça, elle a pris peur quand elle a vu dans un sondage que chez les anglos, ils avaient chuté, leur appui chez les anglos avait chuté.
Qu'il y
avait
c'est menace, 13%, donc, hein, je pense, à un moment donné.
Oui, exactement. Puis bon, elle voyait comme la menace de parti anglo, donc qu'elle allait se former, qu'elle allait pouvoir revendiquer véritablement donc le porte-voix des anglophones plutôt que le Parti libéral. Alors, je comprends qu'elle a eu peur de ça. Sauf que là, comme elle a viré de bout en bout, et maintenant, écoute, il dénonce le projet de loi sur la langue.
Elle est devenue une garde rouge de l'anglais au Québec.
Voilà, mais là, écoute, là, ils ont tellement viré de bord que le problème, je pense, c'est que au-delà de la prochaine élection, ils vont se retrouver avec la même situation de déconnexion avec l'électorat francophone. Ils n'auront pas fait de gain, probablement. On le voit, la 9% chez les franco dans les circonscriptions ailleurs que dans l'ouest de Montréal. Donc, tu peux pas, je veux dire, c'est pas une voie d'avenir. Ça ne peut pas se naître que le seul parti des anglos de l'ouest de Montréal. Alors, moi, je pense que Je pense que Mme Anglade, c'est peut-être plus facile à dire quand on est assis sur le banc là, comme observateur, mais je pense qu'elle aurait dû tenir son bout et continuer. Il faut que tu sèmes la graine que ton parti peut représenter les gens dans d'autres circonscriptions au Québec. Sinon, je veux dire, ça va devenir une disparition à moyen terme.
Donc, moi, en tout cas, j'ai posé la question à Marie Montpetit, qui est encore libérale, même si elle a été exclue du caucus, elle est libérale de cœur. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est encore possible? Parce que c'est, tu peux dire, oui, Dominique Anglade aurait pu garder le cap vers les francophones, vers le. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que parce qu'elle faisait aucun gain chez les francophones, puis elle est en train de perdre sa base chez les anglophones? Alors, ma question, c'était ça, puis j'ai pas eu de réponse satisfaisante. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un réponde. Est-ce que c'est encore possible, compte tenu des positionnements des autres partis?
Mm-hmm. Et moi, je pense que c'est sûr qu'elle s'est retrouvée dans une situation extrêmement complexe. Mais t'as pas le choix de voir à plus long terme. Et moi, je pense que pour assurer d'avoir un, je te dirais, le minimum d'appui, même chez les Anglos, parce que de toute façon, chez les Anglos, même si elle avait perdu des points, je pense pas qu'elle aurait perdu vraiment des circonscriptions. Tu sais, tu vois-tu vraiment un autre parti l'emporter dans Jacques Cartier? Ou dans...
Oui, c'est ça.
Bon, alors moi, je pense que... C'est...
Robert Bourassa l'a fait, à un moment donné, tourner le dos aux anglophones, quand il a reçu le jugement de 1988, le jugement Ford, puis il a perdu, quoi, 4 ministres, 3 ministres? Mais il a gagné les élections après, là. Même, ça a été un résultat très fort en 89.
Moi, ce que je pense, dans le fond, c'est qu'elle aurait dû continuer, parce que c'est comme semer des graines pour l'avenir.
Oui, c'est ça.
Là, elle a laissé les graines partir au vent. Ça sera recommencé de zéro et là, à un moment donné, ça va finir par pas marcher. Donc, je pense qu'elle a fait preuve un peu de, je sais pas si on peut appeler ça de la panique, mais le fait de revirer complètement et là, c'est de faire vraiment comme si c'était pas grave.
En revirant comme ça, elle a l'air d'une femme opportuniste qui n'a pas de conviction. Ça, c'est grave en politique aussi.
Ben voilà. Alors, moi, je pense que ça... ce sera encore plus dommageable, même après la prochaine élection, je pense, pour le parti, l'étiquette, le Parti libéral du Québec.
Et nous en sommes, et nous sommes rendus à ce moment du vendredi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas, ta chronique du journal de demain, et ça mérite toujours un peu de AC/DC. Alors, Rémi, on commence par le négatif, les pouces en bas. Qui envoies-tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine?
Bien là, je vais dire Jean Boulay de la CAQ. Et c'est pas dans ses habitudes, je te dirais, qu'on a plus souvent souligné des bons coups, la bonne tenue de façon générale de Jean Boulay depuis ce mandat de 2018. Je pense que c'est quelqu'un qui a souvent fait des bons coups pour le gouvernement. Mais dans ce cas-ci, le ministre qui est maintenant responsable de l'immigration, on comprend pas vraiment comment il a pu virer justement lui aussi bout pour bout dans la même journée. Parce que on sait qu'il a l'intention d'augmenter la part de l'immigration francophone pour contrer le déclin du français au Québec. Il nous avait accordé une entrevue dans le journal là-dessus. Mais à ce moment-là, il nous avait dit que ça ne voulait pas dire augmenter les seuils d'immigration. Et depuis, on sait que son patron, François Legault, à l'étude des crédits dans des échanges vifs avec Dominique Anglade, maintenait que c'était 50 000 le nombre d'immigrants qu'on pouvait accueillir annuellement au Québec pour bien les intégrer. C'était pas question d'augmenter. Dominique Anglade, elle prône 70 000. Et Jean Boulay, après avoir reçu le rapport qu'il avait commandé de deux experts, Marc Termotte, dis-je bien, et Pierre Fortin, Marc Termotte, lui, a recommandé d'augmenter à 58 000 le seuil annuel. Et Jean Boulay était questionné là-dessus hier dans les corridors. Et il a laissé tomber que lui, personnellement, il trouvait que c'était raisonnable et raisonné. Et donc, il ouvrait la porte à dire que ça pourrait être ça. Il n'a pas dit que ce serait ça du jour au lendemain. Mais il ouvrait vraiment la porte à cette possibilité-là.
Ben oui.
Le seuil annuel à 58 000.
On l'avait, l'extrait, d'ailleurs, hier.
Oui, hein? Bon. Et puis, écoute, après ça, ça n'a pas été très long qu'il a cherché à corriger le tir. Il a fait un premier message sur Twitter pour dire qu'il avait probablement été mal compris. Puis après ça, il a refait un autre message sur Twitter dans lequel il disait carrément, il était passé de raisonnable à « ce n'est pas acceptable ». Alors, il n'y a pas question... Il n'y aura pas d'augmentation des seuils. 58 000, ce n'est pas acceptable. Alors, évidemment, ça marche pas, là. On peut penser que quelqu'un au bureau du premier ministre l'a appelé pour lui demander de donner un coup de bric à bras, de frein à main, devrais-je dire.
Oui.
Mais donc, est-ce que c'était vraiment le fond de sa pensée? Si oui, c'est un peu dommage parce que, tu sais, bon, il a dû se rallier à ce que François Legault dit. Où il a été vraiment malhabile, mais ça ne peut pas passer de raisonnable à pas acceptable en moins de 24 heures sur un sujet aussi crucial. Donc, ça n'a pas été une bonne journée pour le ministre Boulay.
As-tu un autre pouce négatif ou on passe au positif?
C'est dans les semi-négatifs, semi-mitigés, je te dirais. Je trouve un peu étrange dans le cas de Christian Dubé. Il y a deux choses qui sont positives à la base, mais qui ont connu des effets négatifs. C'est le projet de loi pour l'aide médicale à mourir élargie. C'est bien que ce soit déposé pour permettre aux personnes atteintes d'Alzheimer de pouvoir faire une demande à l'avance. C'était attendu et comme les partis d'opposition sont d'accord sur cette question-là, ça devrait pouvoir être adopté. Mais sauf qu'il a causé des vues en incluant les personnes handicapées neuromoteurs. Et ça, ce n'était pas prévu. Les partis d'opposition ont réagi fortement. C'est pas qu'ils sont d'emblée en désaccord, mais il faudra que ce soit étudié plus sérieusement. Donc, ils voulaient que ce soit retiré. M. Dubé, au moins, s'est amendé. Il l'a fait rapidement. Il l'a corrigé. Il a dit que c'était à la demande des médecins. Mais quand il l'a vu, la levée de bouclier, il l'a corrigé rapidement en disant « on va l'enlever, cet article-là ».
Donc, pouce en bas quand même.
C'est un pouce, ouais, comme en haut, en bas, si tu veux mélanger.
Ouais. Puis, mais comme on le disait hier, ça fait plusieurs projets de loi qu'il dépose, M. Dubé, où il est obligé de reculer complètement. Alors, il devrait peut-être travailler un peu plus en amont, là. Tu sais, ouais, le projet de loi 61, puis l'autre projet de loi sur le retour après, c'est-à-dire la fin de l'urgence
sanitaire. La fin de l'urgence, oui. Ouais, exactement. Puis l'autre chose aussi que je trouve un peu partagée, c'est que on était content qu'il conclue une entente avec les médecins omnipraticiens. Pour une meilleure prise en charge, pour un meilleur accès aux médecins. Sauf que là, on a découvert, et je te disais qu'on aurait sûrement des informations là-dessus, notre collègue Patrick Belrose qui a révélé qu'encore une fois, ça prend un incitatif financier pour y arriver. Donc, le groupe de médecine familiale va recevoir 120 $ par nouveau patient pris en charge, et par la suite, le GMF va distribuer ça à ses médecins participants. Donc, il y avait déjà comme une espèce de prime de 50 $ Là, on rajoute 120 $ alors que on sait que l'État finance déjà en partie les GMF pour les aider à avoir du personnel, à payer des dépenses de fonctionnement. Donc, tu sais, encore une fois, je me dis, mais voyons, il faut toujours en rajouter, sinon les médecins, on dirait, ne veulent rien savoir d'augmenter le nombre de Québécois qu'ils voient dans leur cabinet. Donc, encore une fois, là-dessus, extrêmement partagé, plutôt pouce en bas là, pour cette semaine-là, pour M. Dubé.
Est-ce qu'on finit sur une note positive?
Oui, un peu de positif. Donc, bravo André Laforêt. Écoute, je te dis pas que c'est parfait, mais le projet de loi qui a été déposé mercredi, au moins, colmate des brèches. Donc, il y avait quelque chose qui n'avait pas de bon sens, la clause F, qui fait que les propriétaires d'immeubles neufs peuvent augmenter le loyer annuellement là, comme ils veulent pendant 5 ans. Avant de devoir suivre la régie du logement. Donc là, ça a été ramené au moins à 3 ans au lieu de 5. Donc, on resserre de ce côté-là. Mais surtout, ce qui va avoir aussi beaucoup d'impact, c'est que les municipalités vont maintenant avoir un droit prioritaire là, pour leur permettre d'acquérir en priorité des terrains pour la construction de logements sociaux. Donc, ça a pris du temps, mais il y a du bon, il y a des bons éléments dans ce que André Laforêt a déposé, oui, mercredi. Et l'autre élément positif, je soulignerai pour Émilie Lessard-Terrien de Québec solidaire, pauvre elle, on en a parlé cette semaine,
Ouais.
J'ai l'impression qu'elle prêche dans le désert depuis 2 ans.
Mais elle a toujours des excellentes questions, bien, je trouve, bien ramassées. Je pense que c'est une des meilleures jeunes parlementaires.
Oui, moi, je pense que...
Sinon, la meilleure.
On a beaucoup souligné Christine Labry. Avec raison, j'ai trouvé que Christine Labry, en début de mandat, s'est révélée là, être une des recrues politiques les meilleures. Mais Émilie Lessard-Terrien est aussi très bonne. Mm. Et ben, je trouve que c'est ça. Ça vient comme lui donner raison. Elle n'arrête pas de faire des interventions pour soulever la question de la forte concentration d'arsenic à Rouyn-Noranda, oui, dis-je bien, qui n'a pas d'allure. Et là, il y a des nouvelles données qui ont révélé que les voisins de la fonderie Horn vivent en moyenne 5 ans de moins que les autres Québécois. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, ça, en tout cas, j'espère qu'au moins, elle pourra obtenir des résultats dans les prochains mois, qu'il y a quelque chose qui bouge et qui s'améliore de ce côté-là. C'est vraiment insoutenable ce que les gens là-bas doivent endurer. Et on s'en parlait, s'il fallait que ça arrive dans un quartier, par exemple à Québec, ça ferait les manchettes là, beaucoup plus régulièrement.
Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Puis lundi, on va se parler des nombreux congrès et conseils dans les partis politiques en fin de semaine.
Oui, exact. Alors, les caquistes à Drummondville, les solidaires à Montréal et les péquistes à Boucherville pour une journée samedi. Donc, ça sera super intéressant. Et lundi, on pourra se parler.
On ne saura pas où donner de la tête en fin de semaine, Rémi.
Bon week-end.
Salut.